France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Marine Le Pen et le Rassemblement National peuvent-ils perdre la prochaine présidentielle? Question que pose Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, qui est autour de la table des informés ce soir et qui publie aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire chez Michel Lafon, alors que, vous le savez, le RN caracole aussi dans les sondages à 6 semaines des européennes. Raphaël Glucksmann, lui, sera dans un instant à la tribune à Strasbourg pour son grand discours sur l'Europe, 24 heures avant celui d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Quelle différence tient entre l'Europe de place publique et celle de Renaissance? Et puis un grand ouf de soulagement pour l'Ukraine. Joe Biden a signé cet après-midi le chèque de 61 milliards de dollars voté par le Congrès américain. Ce matériel militaire attendu à Kiev dans les toutes prochaines heures peut-il changer la donne? On se pose toutes ces questions avec nos informés qui sont ce soir François Reinhardt, chroniqueur au Nouvel Obs et auteur de La Grande Histoire de la Russie aux éditions Flammarion, Patrice Moyon, éditorialiste à Ouest France, et Cécilia Guébison, journaliste et vice-présidente et directrice éditoriale du groupe de Média ETX. Magellan, bonsoir et bienvenue à tous. RN, l'inéluctable victoire. Disons-le tout de suite, Arnaud Benedetti, le titre de votre livre affiche le point d'interrogation.
Il vaut mieux le préciser.
Mais, dès l'introduction, j'ai remarqué, moi, que ce point d'interrogation sautait. En clair, vous dites, si la présidentielle avait lieu en 2024, la victoire de Marine Le Pen relèverait non pas de l'hypothèse ou de la probabilité, mais de la certitude. Qu'est-ce qui vous rend si sûr ?
Si vous voulez, aujourd'hui, la seule force politique, le seul courant politique réellement en dynamique, c'est le Rassemblement National. Et les sondages le disent, mais pas seulement les sondages. Quand on regarde l'histoire électorale de ces 20 dernières années, ce qui est frappant, quand on fait la comparaison tout simplement entre 2002 et 2022, c'est-à-dire l'élection où Jean-Marie Le Pen atteint le second tour de l'élection présidentielle et l'élection de 2022 où Marine Le Pen se qualifie pour la deuxième fois au second tour, on voit qu'il y a une progression, bien évidemment, dans le cœur historique, sociologique du Front National devenu Rassemblement National, c'est-à-dire les classes populaires. Le Rassemblement National, c'est bien connu aujourd'hui, est le premier parti ouvrier de France, mais il y a une forte progression aussi dans les classes moyennes, et notamment dans une catégorie des classes moyennes qui constitue le cœur des classes moyennes, ce qu'on appelle dans les CSP les professions intermédiaires. Mmh. Prenez un chiffre, en 2002, le Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen, obtenait à peu près 12% dans cette catégorie socioprofessionnelle. Sa fille, au second tour de l'élection présidentielle de 2022, fait presque 50% dans cette catégorie socioprofessionnelle. Donc il y a un renforcement, si vous voulez, très net, déjà dans le socle sociologique. Ensuite, il y a une dynamique territoriale. Ce que l'on constate, c'est que le vote du Rassemblement National progresse partout, territorialement, et on l'a vu lors des dernières élections législatives, où ils ont pu envoyer près de 90 députés à l'Assemblée nationale, et ce point est très important. Je pense que c'est un élément historique très important dans notre vie politique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un groupe Rassemblement National qui rentre à l'Assemblée nationale, qui se structure et qui participe à la banalisation du Rassemblement National, voire la parlementarisation.
Il y a sans un avoir point. Besoin d'ailleurs d'un parti de une part de proportionnel qui
Et sans proportionnel avec un mode de scrutin dont on disait qu'il était couperé jusqu'à présent pour le Front National et le Rassemblement National. Et il y a un troisième point. Si vous voulez, c'est la dynamique, c'est j'allais dire dans l'électorat. Quand on fait la comparaison entre l'électorat du bloc central, c'est-à-dire l'électorat, pour aller très vite, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est un électorat qui générationnellement est un électorat plutôt de seniors. Et la réalité, c'est que ce qui est très frappant dans toutes les études qui ont pu être menées sur, j'allais dire, le décryptage du vote du Rassemblement National, ce qui est très frappant, c'est que l'électorat jeune et l'électorat actif, c'est-à-dire l'électorat d'avenir, en l'occurrence, est aujourd'hui, pour une grande partie, acquis au vote Rassemblement National. Donc ces données, sociologiques, ces données générationnelles aujourd'hui, elles sont objectives et elles montrent qu'en effet, du côté du Rassemblement National, la dynamique est forte. Et puis, il y a un dernier point, c'est la question de la diabolisation et de la dédiabolisation.
Voir
ce qui est frappant, c'est que
quand
on fait, par exemple, des études sur des cohortes générationnelles, on prend des gens qui avaient 20, 25 ans en 2002 et des gens qui ont aujourd'hui 20 ans de plus en 2022, et on voit que le vote pour le Front National en 2002, dans cette catégorie de population, les 20-24 ans, était à peu près de 15%. il a considérablement augmenté 20 ans plus tard, puisque les gens qui ne votaient qu'à 15% dans cette catégorie générationnelle votent quasiment à 40% pour Marine Le Pen. Et alors, il y a un point très important, c'est qu'en plus, l'électorat rentrant, les nouveaux entrants qui votent, sont des électeurs qui, si vous voulez, n'ont pas été socialisés fortement dans la diabolisation du Rassemblement national et du Front national. C'est-à-dire que, si vous voulez, le phénomène de diabolisation se dissipe aussi avec ces nouveaux entrants électoraux, ces nouveaux électeurs. Donc ces données, en effet, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, évidemment, ça peut changer d'ici là, parce qu'il y a des tas de paramètres que j'évoque dans l'ouvrage qui montrent qu'il y a bien évidemment des incertitudes qui restent fortes. Mais aujourd'hui, manifestement, le rapport de force est du côté du Rassemblement national.
L'une des questions qui se pose, c'est évidemment la différence entre 2022 et 2027. Pourquoi ce qui bloquait ? Parce que mine de rien, dans une présidentielle, au moment de franchir le pas, certains lui prédisaient déjà pas loin d'une victoire en 2022. Or, ça n'a pas été le cas. Il y a ce, voilà, on parle toujours de ce plafond de verre. Je ne sais pas s'il faut complètement oublier cette expression, si elle est à bannir. Mais ce qui pouvait bloquer dans une présidentielle, est-ce que pour vous, ça a complètement disparu ?
Il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est qu'on le veuille ou non, l'usure des partis de gouvernement auxquels dont participe le macronisme d'une certaine manière, et Emmanuel Macron et le parti présidentiel. Ça, c'est un point important. Et le deuxième élément qui me semble en effet capital, j'en ai déjà parlé, c'est il y a un événement quand même qui est un événement majeur en termes de rupture politique en 2022, c'est que il y a l'entrée massive d'un groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et la parlementarisation, qu'on le veuille ou non, a travaillé à une forme de socialisation républicaine du Rassemblement national. Donc ça facilite inévitablement sa tâche. Et puis, dernier point, c'est qu'il y a eu une évolution, alors artificielle ou pas, ça c'est un autre débat, de la sémantique, mais aussi du logiciel politique du Rassemblement national. Le Rassemblement national abandonne, quand il est Front national d'ailleurs, la sortie de l'euro dès 2017. Dès la fin 2017, il rompt avec la ligne qui était la ligne Philippot, et on l'a vu évoluer, y compris même sur l'Ukraine, récemment, où on a un Rassemblement national qui essaye en tout cas de rentrer toujours un peu plus dans les codes de ce que l'on peut appeler une forme de politiquement correct, et qui facilite indéniablement aujourd'hui la rupture du cordon sanitaire qui empêchait son action au pouvoir jusqu'à maintenant.
Avec le risque même de paraître changé d'avis et de donner l'image d'un parti plein de dissensions. On va en parler et les autres informés, évidemment, je ne vous oublie pas.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle du Rassemblement national en haut des sondages avec François Reinhardt, chroniqueur au Nouvel Obs, Patrice Moyon, éditorialiste à Ouest France, Cécilia Gabizon, directrice éditoriale de ETX Magellan, et Arnaud Benedetti, auteur de ce livre « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ». On parlait de dissension, et pour vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute brièvement Marine Le Pen il y a 2 ans, Jordan Bardella aujourd'hui, au sujet de l'OTAN.
La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante. C'est là un paradoxe que comprennent mal les mondialistes, mais que nous autres nationaux, nous savons être une vérité éternelle. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'OTAN.
Si la guerre est toujours en cours, non. On ne change pas
les... C'est plus au programme.
Le programme que nous avons toujours défendu, qui consiste à dire... La France doit quitter le commandement intégré de l'OTAN, que vous avez fait réintégrer le président Sarkozy. Ne tenez pas compte de la guerre. Or, aujourd'hui, il y a une guerre. Moi, je pense qu'on ne change pas les traités en période de guerre.
Voilà, François Reinhardt, c'est pas le seul exemple, mais pour faire suite à ce qu'on disait avant, c'en est un.
Eh bien, tout à fait. Je voulais rebondir sur d'autres exemples, puisque là, j'entends que Monsieur Benedetti travaille en politologue, mais moi, je vais essayer de raisonner en citoyen, en démocrate. Et un citoyen démocrate, il s'intéresse d'abord aux élections qui viennent avant de penser à celles qui auront lieu après. Donc, les élections européennes. Et ces élections européennes qui, contrairement à ce que pensent la majorité des gens, sont très importantes, puisque, le RN, d'ailleurs, il a porté cette idée-là en mettant la faute à l'Europe. C'est toujours la faute à l'Europe, quoi qu'il se passe en France. Eh bien, ben donc ça veut dire que l'élection européenne est importante. Et là, sur cette question-là, comme vous le faisiez remarquer sur la question de l'OTAN, le RN, il a changé tout le temps, en tout. Ils étaient contre... l'euro, c'était... sur l'euro, il faut quand même se souvenir de ce qu'il disait Marine Le Pen avant 2017. C'était la matrice de tous les maux, de tout... La France allait devenir libre en revenant aux francs, etc. Et elle a rendu compte que la majorité des Français qui avaient une intelligence économique ont compris que ce serait une catastrophe parce qu'ils perdraient toutes leurs économies si on venait aux francs. Donc, et le RN est sans cesse sur des choses à revenir. Donc, il n'y a aucune cohérence politique.
À 60 ans,
la retraite à 60 ans, c'est un autre exemple, mais qui n'est pas dans l'Europe. Mais sur les questions européennes, là, aujourd'hui, ils ont une thématique qui est l'écologie punitive. Hein, c'est ce qu'ils répètent tout le temps. Ils essaient de mettre ça dans le débat. C'est-à-dire, les méchants écologistes veulent vous punir. Mais il y a 2 ans, ils étaient contre tous les produits phytosanitaires, le glyphosate, etc. Ils étaient pour l'interdiction de tout ça. Et maintenant, comme ils ont viré côté FNSEA, ils sont pour. Enfin, où est la cohérence de ce parti? Donc, Français, réfléchissez. Est-ce que vous voulez donner les clés de la France à un parti qui est capable de dire une chose et son contraire à 6 mois d'intervalle, quoi?
C'est assez étonnant qu'effectivement, dans d'autres partis, probablement que ça leur porterait préjudice. C'est pas le cas ici.
C'est vrai que pour prolonger le paradoxe, c'est qu'ils sont extrêmement populaires, alors que c'est le parti le plus critique pour les élections européennes, alors que c'est le parti le plus critique, le plus changeant, le plus indéchiffrable sur l'Europe. Donc, tu peux te dire, finalement, les gens aujourd'hui portent Bardella haut dans les sondages et ça parle pas d'Europe. Mais néanmoins, c'est sur l'élection européenne.
Ça dit quoi? Ça dit l'euroscepticisme de...
Non, je pense que c'est...
Ça dit
la désagrégation. La désagrégation, c'est
Français.
Toujours finalement la désagrégation des partis traditionnels, de la social-démocratie, de gauche, de droite, la désagrégation. Et en fait, parce que là, si on regarde le bloc de gauche aux élections européennes, il est tout petit. Et donc, ça dit la désagrégation. Les jeunes se sont tournés vers les partis, quelque part, extrême-gauche ou extrême-droite, Rassemblement National. Donc en fait, ils ont réussi à capter un public qui n'était pas content de l'existant. Et sur l'Europe, qui est pourtant un enjeu effectivement majeur, et je rejoins François Renard là-dessus, un enjeu majeur pour nos vies, en fait, on est prêt, un certain nombre de Français sont prêts à confier les clés, et c'est important, parce que ça fonctionne par bloc, l'Europe. Donc les blocs sont importants. Aujourd'hui, au Parlement européen, ça reste finalement une division assez classique. Des partis de droite et des partis de gauche socialistes, on dirait social-démocrates, après le parti Renew, et ensuite les partis populistes, dont fait partie le Front National. Donc, c'est important, les grands équilibres au Parlement européen.
Absolument.
Donc, en fait, là, on est en train de jouer pour, finalement, des décisions qui vont se prendre et qui vont influencer grandement nos vies, avec un candidat qui est à la proposition la moins lisible sur l'Europe. Donc, c'est vraiment paradoxal. Et en fait, c'est un peu ce que disait Arnaud Benedetti, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il a capté, on assiste, il a capté, en fait, une part de... besoin, envie de renouveau, quel que soit ce qui est dit, en fait. Il y a une forme de sociologie. Le Rassemblement National n'est pas le Front National, n'est plus le Front National. Il y a une sociologie qui s'est quelque part embourgeoisée aussi, rajeunie. On parlait même des seniors. Les seniors qui, pendant très longtemps, ont été très hostiles au Front National. Aujourd'hui, on voit que ce plafond, en fait, qui résistait quelque part, est en train de s'effriter. Et il y a, alors, si j'en crois les derniers sondages, 26% de plus de 65 ans qui voterait pour le Rassemblement National. Donc en fait, il y a quelque part un vote de, on pourrait dire encore, de demande d'une forme de nouveauté.
Alors, avant d'aller regarder comment ça se passe justement au Parlement européen, Patrice Moyon, sur ce premier constat, alors, et sur ce paradoxe, quoi.
D'abord, je pense qu'il faut resituer le vote ou la percée du Rassemblement National dans le mal-être qui traverse toutes les sociétés démocratiques des pays développés. Et la crise identitaire aussi d'un certain nombre de pays. Sinon, on n'aurait pas cette percée dans beaucoup de pays européens. Une partie aussi des classes ouvrières et classes moyennes qui se sentent oubliées, déclassées. Donc il y a cette peur. Et puis effectivement, comme le disait Arnaud Benedetti tout à l'heure, le fait que la diabolisation aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc les gens sont prêts, comme même l'image d'Emmanuel Macron, celle de 2017, où il apparaissait un peu comme novateur, a été brouillée. Les gens se disent pourquoi pas essayer le Rassemblement National.
Mais je poursuis sur l'idée de novateur, parce que je pense qu'il y a une forme d'attrait pour quelque chose de pas essayé encore, ou pas complètement essayé encore. Alors que effectivement c'est une vision qui n'est pas une... Enfin, c'est une forme de repli identitaire, en tout cas, parce que les thèmes, finalement, même si on les entend de manière indistincte, là, les thèmes, c'est quand même des thèmes d'identité. C'est aussi d'être, mais d'une identité, et pour moi, une identité, c'est une identité politique, c'est une identité vers l'avant, ce sont des valeurs et des projets. Une identité, c'est pas statique, elle se trouve pas derrière nous. C'est parce qu'on a été une identité, ce qu'on a été, ça nous construit. Mais ça nous construit. La France, c'est un projet de citoyenneté. L'Europe aussi. C'est une identité construite, politique. Et là, on nous propose, en fait, quelque part, et on sent qu'il y a un attrait pour, finalement, une identité nostalgique de ce qu'on a été. Voilà, quelque chose d'un peu rassurant.
François Reynard, juste avant le fil.
Pardon, je voulais juste dire sur les incohérences aussi, il y a un exemple qui est très patent, qui est Monsieur Bardella, par exemple, il attaque toujours les normes européennes. Il dit, vous savez, tout le monde, tous les Français qui nous écoutent, ils disent, l'Europe, c'est que des normes, on doit faire la taille des bananes, etc. Enfin,
c'est d'ailleurs pas les seuls au Rassemblement National.
Voilà, on attaque les normes. Et par ailleurs, il dit, et c'est scandaleux parce que nos marchands français, nos commerçants français, nos producteurs ne peuvent pas vendre tous leurs biens parce qu'il y a des pays qui font du protectionnisme déguisé. Pourquoi il y a des normes en Europe? Personne ne se pose jamais cette question-là. Pourquoi l'Europe fait des normes? Elle fait des normes pour que la concurrence soit non faussée. Elle fait des normes pour qu'une banane ou pour qu'un pot de yaourt, ce soit le même pour un Danois et un Espagnol, etc. Et donc, dire dans la même phrase, je suis contre les normes et je suis pour que la concurrence soit normale, c'est totalement contradictoire.
Mais voyez ce que vous dites là, François, c'est sans doute tout simple. Enfin, aussi l'échec des autres partis, des partis pro-européens, qui ne parviennent pas à faire entendre ça.
On est bien d'accord. Il y a un problème de pédagogie sur l'Europe depuis le départ de l'Europe, qui est que quand il y a un ministre qui va à Bruxelles et qu'il y a quelque chose qui ramène, dans l'intérêt des Français, il dit regardez, grâce à moi, on a gagné ça. Et quand quelque chose qui est l'intérêt des Allemands, des Espagnols, il disait on a perdu. Non, mais c'est pas vrai. L'Europe, on est un club, on est tous ensemble. On doit avoir un intérêt collectif européen.
On va regarder dans un instant comment ça se passe au Parlement européen, justement, avec un Rassemblement national qui est un parti isolé. Et on va essayer de comprendre pourquoi.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bon.
En compagnie ce soir de Patrice Moyon de Ouest France, François Reynard du Nouvel Obs, Cécilia Gbizon de TX Magellan et Arnaud Benedetti de la Revue Politique et Parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ». Alors, au Parlement européen, il a beaucoup été souligné que Jordan Bardella avait écrit très peu d'amendements, avait une présence peut-être pas exceptionnelle. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi. Ils n'ont aucun poste clé, ils ont 18 eurodéputés, ils n'ont pas de poste clé, ils n'ont pas de vice-présidence du Parlement lui-même, ni de présidence de commission. On ne les voit pas beaucoup, c'est ce que nous dit Angélique Boin, qui est la correspondante de Radio France à Bruxelles et qui avait fait cette longue enquête que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet. Et il y a une des raisons d'ailleurs, enfin la première raison sans doute, c'est le cordon sanitaire mis en place par les partis traditionnels. On va écouter Sandro Gozzi, c'est un eurodéputé franco-italien qui siège avec le groupe Renew.
Quand on pense comme les RN que l'état de droit ne soit pas une question vitale pour l'Union européenne, quand on a un désaccord sur les libertés fondamentales, il n'y a pas la base pour faire un travail commun au Parlement. Donc le cordon sanitaire existe et il doit continuer à exister.
Alors, il y a ce cordon sanitaire, mais il y a aussi une volonté assumée côté RN pour ne pas collaborer, comme l'explique l'eurodéputé Rassemblement National, cette fois Gilles Le Breton.
Parce qu'on estime que l'Union européenne n'a pas à s'immiscer dans certains domaines, du coup, on ne participe pas au compromis. Alors, on est présent, on proteste, mais au moment où s'opère le travail technique, en effet, là, on n'y participe pas, puisqu'on est contre radicalement.
Alors, ce cordon sanitaire ici en France, c'est quelque chose qui est méconnu et qu'on a du mal à comprendre sans doute parce que ça n'existe pas. Il y a eu des régions co-présidées ou co-gérées par le Rassemblement National.
Il n'y a pas eu vraiment de régions co-gérées, semble-t-il, de mémoire, par le Rassemblement National.
Il y a eu des majorités.
En 98, en effet, il y avait eu ce problème où une partie de la droite, de présidents de droite, avait accepté les voix du Rassemblement National. Il y avait peut-être eu, en effet, la région à l'époque Languedoc-Roussillon où il y avait un accord, en effet.
Il y a eu des cas de
gouvernance
quand ça s'est présenté, en tout cas.
Oui, mais alors, si vous voulez, je pense qu'il y a un autre élément qui est quand même, à mon avis, un élément capital. Alors, sur le Parlement européen, ce qu'il faut noter quand même dans l'histoire électorale du Rassemblement National et du Front National, c'est que les élections européennes ont toujours été des élections plutôt favorables au Front National. Je rappelle que la première percée historique du Front National, c'est 1984, où le Front National de Jean-Marie Le Pen tutoie les 10%, ce qui constitue déjà un choc politique très important dans la vie politique française. Mais après, je pense que, si vous voulez, il y a un autre sujet qui est, à mon avis, essentiel pour comprendre cette percée quand même du Rassemblement National, c'est le rapport, j'allais dire, à la confiance et à la défiance. Il y a un politiste qui s'appelle Luc Rouban qui explique très bien que ce qui est devenu aujourd'hui la matrice essentielle de la relation des Français aux institutions et, j'allais dire, à l'avenir même, c'est la défiance. C'est la défiance. Fondamentalement, aujourd'hui, vous avez une grande majorité des Français qui considèrent, lorsqu'on leur pose la question « Est-ce que vos enfants auront une vie meilleure que vous ?» Ben, ils ne répondent plus positivement à cette question. Ça veut dire que, finalement, l'instrument qui est l'instrument de promotion sociale, de mobilité sociale que constituait la République ne fonctionne plus. Donc cette défiance, elle explique aussi fortement la croissance et la poussée du Rassemblement National et même du Front National dans les années 80 et 90. Et quant à la question du cordon sanitaire au Parlement européen, certes, mais si vous voulez, le problème c'est que ça n'a pas d'impact sur l'électorat. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on le voit bien, l'élection européenne, on peut le regretter, mais il faut le constater, elle ne se noue jamais autour d'enjeux européens. Et ce sont toujours des enjeux qui sont des enjeux que je qualifierais de domestiques ou nationaux qui vont orienter le vote des électeurs. Et le risque, très souvent, c'est de voir un vote qui va tout simplement exprimer une sanction pour le pouvoir en place. C'est ce qui, aujourd'hui, en effet, menace Emmanuel Macron, mais ce qui a déjà menacé d'autres pouvoirs par le passé.
Je rebondis sur ce que disait mon voisin, sur le sentiment de déclassement, le sentiment que ça va plus mal, etc. Il y a une vérité, c'est que la plupart des Français se rendent compte qu'ils sont dans un pays qui est moins puissant qu'il n'était. Ça, c'est une évidence historique. La France était, en 1914, il y avait 5 ou 6 puissances qui gouvernaient le monde entier avec les empires coloniaux. Évidemment, on n'est plus là du tout. Eh bien, la plupart des gens pensent cette espèce de chimère absurde qui est, moi, je vais me remettre au centre de la table et je vais dire, avec moi, la France va redevenir la France, et ils pensent que ça va devenir une grande puissance. Mais en 1914, les Chinois, il n'y avait pas 1 milliard de Chinois, il n'y avait pas 1 milliard d'Indiens, etc. Donc je pense que, paradoxalement, ce sentiment de l'idée que la France est plus petite qu'elle n'était jadis, ça doit nous pousser dans le fait de bâtir une Europe plus forte, parce que c'est comme ça qu'on peut se protéger dans le monde d'aujourd'hui.
Si je peux me permettre, il y a une petite contradiction de mon point de vue entre quand on dit les jeunes électeurs, on le disait tout à l'heure, les jeunes électeurs n'ont pas tout l'historique, donc la diabolisation, tout ça, ça ne leur parle pas. Puis tout d'un coup, là, vous nous dites, mais non, mais en fait, ils ont le souvenir de cette grande France.
Parce que c'est ce que leur vendent de manière chimérique, le Front National, le Rassemblement National et Éric Zemmour, qui vendent ça, qui vendent avec moi. Si vous voulez, comme effectivement les gens ont le sentiment que demain, ce sera plus mal qu'aujourd'hui, ce sera pire qu'aujourd'hui. Rendez-moi la France de mon enfance ou celle fantasmée de l'enfance de mes parents. Mais ça, ça n'existe pas dans l'histoire.
Il y a cet aspect qui joue, en effet, c'est-à-dire la nostalgie d'une France grande puissance qui est devenue une puissance moyenne, d'ailleurs depuis les années Giscard. Giscard disait que la France était une puissance moyenne à l'époque. Mais je pense que ce n'est pas ça qui est la motivation principale aujourd'hui du vote. Quand les gens ont une vision plutôt pessimiste de l'avenir, c'est de leur situation sociale dont ils parlent, de leur situation personnelle, de la situation de leurs enfants. C'est donc, en effet, le sentiment d'une forme de déclassement, voire de dépossession, qui aujourd'hui va vraisemblablement motiver leur vote et qui fait qu'une grande partie vote aujourd'hui pour le Rassemblement National.
Cécile Agabizian, oui.
Oui, c'est vrai que toujours sur le vote Front National, là, on voyait par exemple que les vieux immigrés, on va dire ça comme ça, un certain nombre en fait annoncent qu'ils voteront aussi Front National parce que ils étaient très préoccupés par des questions de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que par plein de chemins, je généralise pas du tout le vote mais par plein de chemins qui ont un rapport avec son histoire personnelle, des peurs, peur du déclassement, peur ou réalité du déclassement, sentiment d'être méprisé par les élites, mais font partie maintenant des élites. Il y avait une étude qui était super intéressante qui montrait qu'en fait ce sentiment arrive déjà avec l'école. En fait, à l'école, le conseil de classe, etc., où on parle de tes enfants, la façon dont on traite l'orientation, l'espèce de non-compréhension de comment les enfants sont orientés, les gens font un peu l'expérience, en tout cas le vivent aujourd'hui, comme une expérience de mépris, et on t'écarte du chemin de la réussite au profit de certains qui sont l'élite et qui poursuivent ce truc-là. Et là, en fait, le Front National, il joue toujours dans sa cour d'outsider, puisqu'il fait pas partie de cette élite-là, même s'ils sont bourgeoises, et donc il est quelque part, en perception, en tout cas on peut l'imaginer, plus proche de la façon dont certaines personnes se vivent dans ce déclassement, ce sentiment de ne pas être considéré, et des craintes pour l'avenir, des craintes de sécurité. Donc il y a un mélange de craintes réelles, de craintes sur son destin personnel, de ressentis, et en fait, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que donc ça ne se place pas sur un programme, ça se place sur un petit sentiment de proximité plutôt avec des gens qui pourraient mieux comprendre les gens qui se sentent déclassés et non pas sur le programme que propose le Rassemblement National.
Patrice Moyen, vraiment.
Oui, puis je pense qu'il y a eu l'abandon aussi des classes populaires par la gauche aussi. Je pense que le succès du Rassemblement National, il s'explique aussi par l'abandon des questions sociales, notamment par le Parti Socialiste à un moment.
Et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs pour l'instant dans les intentions de vote de Raphaël Glucksmann, qui lui aussi va chercher sans doute beaucoup de déçus, mais pas forcément dans les classes populaires. Allez, on va refermer ce dossier Rassemblement National. On parlera dans un instant d'un autre candidat, d'une autre tête de liste qui est Raphaël Glucksmann, justement, qui s'exprime dans quelques instants à Strasbourg et qui va parler d'Europe.